Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Gustave Massia, président du CRID, du Centre de Recherche et d'Information sur le Développement, qui regroupe 39 associations de solidarité internationale en France.
Et oui, comme d'habitude, je lis les journaux. Et il faut croire que j'en lisais même pendant les vacances, parce que l'article que j'avais repéré dans Le Monde datait du 19 juillet 2001. Dans cet article-là, j'ai lu que George Bush affirmait que seule la croissance des pays riches assurera le développement des pays pauvres, et il disait même « les antimondialisations condamnent les gens à la misère ». Alors je suis quand même un peu étonnée de ces propos, et enfin, peut-être vous considérez-vous comme un antimondialisation, alors ça veut dire donc que vous êtes contre les gens du Sud.
Il faut croire, s'il faut croire Monsieur Bush, oui. Mais est-ce qu'on peut croire Monsieur Bush? C'est là toute la question. Disons, en fait, d'abord, il faut préciser ce que ça veut dire anti-mondialisation. Nous ne sommes pas du tout contre la mondialisation, qui est une tendance. Nous sommes contre le caractéristique actuel de la mondialisation, ce que nous appelons la mondialisation néolibérale, c'est-à-dire justement celle qui privilégie avant tout la croissance des pays riches.
Et les échanges internationaux.
Et les échanges internationaux, mais évidemment. C'est-à-dire l'idée qu'il faut ajuster chacune des sociétés au marché mondial. C'est ça la mondialisation néolibérale, que finalement il n'y a pas de salut en dehors du marché mondial. Mais ce qu'il faut voir, c'est comment fonctionne ce marché mondial. Et aujourd'hui, quand nous regardons ce qui se passe, en dehors évidemment des dogmatiques, genre M. Bush et ses amis, eh bien, nous nous rendons compte qu'il y a quand même de nombreuses années que cette mondialisation est dominante, que le libre-échange mondial est tout, enfin, entre guillemets, on reviendra peut-être là-dessus, puisque on voit bien que les États-Unis appellent à l'échange mondial et au libre-échange mondial, mais eux-mêmes n'hésitent pas, comme on l'a vu il y a quelques jours, hein, à se protéger et à protéger leur marché quand ça les arrange. Et eux, ils en ont la possibilité, alors que les pays du Sud ne l'ont pas. Eh bien, on a vu fonctionner ce marché depuis maintenant 20 à 30 ans. Et en fait, on voit bien qu'il s'est traduit par l'accroissement des richesses d'un côté dans les pays riches, d'ailleurs dans une partie des pays riches, chez les riches des pays riches, et de l'autre côté, l'accroissement de la misère, de la pauvreté dans les pays pauvres. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, si on prend une donnée d'un organisme tout à fait officiel, qui est le Programme des Nations Unies pour le Développement, il explique que 20% de la population mondiale ont un revenu équivalent à 80% de la population mondiale. C'est-à-dire que les pays riches concentrent d'une manière que l'on n'avait jamais vue dans l'histoire de l'humanité l'ensemble des richesses.
Oui, mais tout cela, c'est peut-être dû simplement au fait que il reste trop de bannières douanières, trop de soutiens divers et variés à diverses économies. Non, ça peut pas être ça.
Enfin, il y a des théoriciens qui disent ça. Mais plus on dit ça, et plus on ouvre les barrières, et plus les pays riches sont riches, et plus les pays pauvres sont pauvres. Donc il faudra bien quand même un jour voir ça. Si vous voulez, il y a bien toujours des gens qui disent « mais parce que ce n'est pas assez ». Mais il faut aussi quand même voir la réalité. Si on regarde la réalité, ce que l'on constate, c'est que la part des pays pauvres dans le marché mondial ne cesse de diminuer. Bon, on peut donner un exemple, si vous voulez, pour montrer que à quel point c'est une réalité qui est admise par tout le monde. Quand on a ouvert les pays de l'Est au marché mondial, toujours suivant ce programme des Nations Unies pour le Développement, qui publie chaque année un rapport sur le développement mondial, qui est un très très bon document, qui est d'ailleurs sur le site, sur Internet, site Nations Unies, programme des Nations Unies pour le Développement, rapport sur le développement mondial, eh bien, en 1998, ils ont publié un rapport sur les inégalités dans le monde. Et ils ont dit quand même cette chose assez extraordinaire, c'est que quand on a ouvert les économies des pays de l'Est au marché mondial, eh bien, ça s'est traduit par le fait que, brutalement, à peu près 200 millions d'habitants des pays de l'Est ont vu leurs revenus chuter très brutalement et sont passés sous le seuil de la pauvreté. C'est-à-dire que, de fait, on voit bien que l'ouverture au marché mondial ne se traduit pas du tout par un accroissement du revenu des populations dans les pays pauvres. Elle se traduit effectivement, ça c'est vrai, par l'enrichissement de couches sociales très très peu nombreuses d'ailleurs dans les pays pauvres. C'est-à-dire que la bourgeoisie des pays pauvres s'enrichit, les riches des pays pauvres s'enrichissent. Ils s'enrichissent d'une part parce qu'ils sont liés au marché mondial, leur revenu s'accroît, d'autre part par la corruption, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le marché mondial fonctionne aussi sur la base de la corruption, et que d'ailleurs, si on reprend ce que a dit un orfèvre en la matière, M. Stiglitz, prix Nobel de l'économie de l'an dernier, mais qui avant d'être prix Nobel était quand même économiste en chef de la Banque mondiale, et qui, dans son discours sur le prix Nobel, nous a expliqué que, en libéralisant complètement les pays de l'Est, et notamment la Russie, on avait réussi à construire une économie mafieuse. Et que donc, on s'est retrouvé d'un côté avec un enrichissement extraordinaire de gens dans les pays de l'Est, comme ça s'était passé auparavant dans les pays du Sud, et que, d'un autre côté, on s'est retrouvé avec un accroissement de la pauvreté dans les mêmes pays. Et d'ailleurs, d'une façon générale, vous savez, quand il y a de la pauvreté, c'est parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent. Globalement, si on prend le cas de la France, par exemple, qui est un exemple que nous pouvons prendre, puisque nous y vivons, eh bien, la France est 25 ans, la France est 2,5 fois plus riche, si on reprend les chiffres du PIB, du PNB, et pourtant, depuis 20 ans, elle a beaucoup plus de pauvres qu'il y a 20 ans, puisque finalement, il y a 2 ou 3 millions de chômeurs, alors qu'il y a 25 ans, il n'y en avait pratiquement pas. Il y a beaucoup plus, il y a 500 000 ou 700 000 sans-abri, alors qu'avant, il n'y en avait pratiquement pas. Et donc, ce que l'on a vu en France, comme dans le reste du monde, c'est un creusement des inégalités.
Des sous et des hommes, avec Gustave Massia, le président du CRID, qui nous disait tout à l'heure que les choses s'étaient très 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 mal passées pour les pays de l'Est à partir du moment où l'économie a été libéralisée. Mais moi je pourrais vous dire, mais ça s'est plutôt bien passé pour l'Asie, non ?
Ben non, on ne peut pas dire ça malheureusement. Ce serait très bien si ça s'était bien passé pour l'Asie. Ce serait très bien. Effectivement, il y a eu un certain nombre de pays, qu'on a appelé les dragons d'ailleurs, qui ont vu leur revenu moyen par personne augmenter. Mais c'est pour ça que j'avais pris l'exemple des pays de l'Est, c'est parce que ça répond à l'argument immédiat, il n'y a qu'à ouvrir le marché et ça va bien se passer. Donc on a une expérience très récente, on a ouvert le marché, ça s'est pas bien passé. Dans les pays du Sud, et notamment en Asie, si on prend l'exemple de l'Asie, pour certains pays, ça s'est un peu passé pas trop mal au début, d'ailleurs on peut le dire, mais pas pour tous les pays d'Asie, hein, il faut quand même bien le souligner. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que si on prend l'exemple de la Corée, par exemple, eh bien, après un développement industriel en flèche, lié d'ailleurs beaucoup plus à des raisons géopolitiques et pas seulement à des raisons économiques, eh bien, on s'est retrouvé avec une crise financière majeure, la crise financière thaïlandaise, la crise financière coréenne et même la crise japonaise. Mais enfin, si on prend les crises financières thaïlandaises, japonaises et indonésiennes des deux dernières années. Eh bien, en quelques jours, et ça ne s'est pas rétabli après, le niveau de pauvreté, le seuil de pauvreté, tel qu'il a été fixé, c'est-à-dire le seuil de pauvreté, c'est la moitié du revenu médian. Disons, c'est la moitié de ce que gagne la moitié des gens. Mmh. Bon. Mais si on prend ce seuil de pauvreté, eh bien, brutalement, 20 à 30% de la population a basculé sous le seuil de pauvreté en quelques jours, à cause de la crise financière et de la crise boursière qu'il y a eu dans ces pays-là. Et aujourd'hui, bien sûr, après cette chute de 30%, on est remonté, mais globalement, le revenu est encore inférieur à 20% en moyenne dans ces pays par rapport à il y a 5-6 ans. Donc l'ouverture des marchés ne produit pas automatiquement du bien-être. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut voir, ce n'est pas justement des déclarations théoriques, il faut regarder ce qui s'est passé dans la réalité. Dans la réalité, la richesse théorique d'un certain nombre de pays a augmenté, leur produit national brut a augmenté, mais les inégalités se sont accrues. En fait, voilà, c'est ça qui se passe quand on mise sur la croissance uniquement, et quand on ne mise que sur la croissance liée à l'exportation, eh bien, il se passe deux choses, c'est que la richesse se construit sur les secteurs d'exportation et ne profite pas aux populations, et que les inégalités augmentent et la pauvreté augmente. Voici, je crois que c'est un peu ça le mécanisme que l'on peut donner. Et d'ailleurs, même la Banque mondiale, qui a décidé maintenant de mettre l'accent sur la lutte contre la pauvreté, a reconnu le fait que, malgré, comme ils disent dans leur jargon, malgré un accroissement de la richesse mondiale, il faut admettre que la pauvreté a augmenté, et c'est pour ça qu'ils proposent aujourd'hui de centrer leur programme sur la lutte contre la pauvreté.
Mais j'arrive pas vraiment complètement à comprendre comment Bush réussit à dire quand même des si profondes contre-vérités, si effectivement les faits sont si manifestes que cela.
Ah, écoutez, suivant que vous serez puissant ou misérable, vous pourrez dire ce que vous voudrez ou pas. Aujourd'hui, Bush peut dire ce qu'il veut, effectivement. Par exemple, je vais vous donner un exemple quand même qui est assez simple. On nous a expliqué que il fallait ouvrir le marché mondial parce que ça permettait aux investissements de circuler librement et ça permettait donc à tous les pays du Sud de bénéficier des investissements des pays du Nord. Bon, ces investissements des pays du Nord se dirigent vers très peu de pays du Sud, une quinzaine en tout sur l'ensemble des pays du Sud, et vers des secteurs qui sont essentiellement des secteurs d'exportation, exportation de matières premières ou, dans certains pays asiatiques, exportation de produits industrialisés, mais qui servent en fait de sous-traitance pour les autres pays. En réalité, nous ne sommes pas du tout dans une situation de concurrence, comme on dit. Nous ne sommes pas du tout dans une situation de marché concurrentiel. Nous sommes dans une situation de ce qu'on pourrait appeler des oligopoles. Alors évidemment, d'ailleurs, toute la bataille oligopole, ça veut dire quelques grandes entreprises qui contrôlent un marché. 3-4 grandes entreprises qui contrôlent un marché mondial. Donc pendant très longtemps, on nous a dit, par exemple en France, on nous dit il faut lutter contre les monopoles publics parce que le monopole c'est pas bien, la concurrence c'est mieux. Mais en réalité, on remplace des monopoles publics par des monopoles privés ou des oligopoles privés. Que font ces entreprises? Elles investissent dans les pays du Sud. Mais en réalité, avec les privatisations, qu'est-ce qu'on a vu dans les pays du Sud? C'est que il n'y a pratiquement pas de nouvelles productions. Il y a le rachat des productions qui existaient pour en faire des productions plus rentables. Et ensuite, dans un deuxième temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les profits repartent et on arrive quand même à, si on reprend l'exemple de l'Amérique latine, qui est un très bon exemple, puisque ça fait très longtemps qu'il y a des privatisations, qu'il y a de la libéralisation, qu'il y a des investissements extérieurs des multinationales. Eh bien, aujourd'hui, en Amérique latine, on en est au point où les profits et le paiement de la dette sont en moyenne 2 fois supérieurs aux investissements qui rentrent. Et donc, ça veut dire que les pays s'appauvrissent et que le fait d'avoir un libre-échange fait que ce sont les plus puissants qui peuvent effectivement reprendre une partie des flux. Et aujourd'hui, ce que l'on peut dire, et tous les économistes vous le diront, Monsieur Bush, sauf Monsieur Bush évidemment, mais qui n'est pas vraiment un économiste, eh bien, tous les économistes vous le diront, aujourd'hui, c'est le Sud qui investit dans le Nord. C'est-à-dire les flux d'argent arrivent du Sud vers le Nord.
À Ligre FM, des sous et des hommes, et nous sommes toujours en compagnie de Gustave Massia. Visiblement, la mondialisation, l'ouverture des marchés, des biens et des capitaux n'apporte peut-être pas tous les bénéfices qu'on pourrait croire au premier abord aux pays du Sud. Mais est-ce que vous auriez quelque chose de mieux à proposer à ce moment-là?
Bon, en fait, c'est pas une recette. On n'a pas de recette. Hein. On a une démarche. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé à Porto Alegre, le thème c'était un autre monde est possible, montre qu'il y a des possibilités. Il y a des possibilités. Et d'ailleurs, y compris une partie des économistes du Nord, et même des économistes de la Banque mondiale ou d'autres, pensent aujourd'hui qu'il faut chercher autre chose. Parce que ce que nous disons, ce n'est pas qu'il ne faut pas de croissance et qu'il ne faut pas d'échange. Ce n'est pas d'un côté, il y a ceux qui sont pour la croissance et pour les libre-échanges, et de l'autre côté, ceux qui sont contre la croissance et pour le protectionnisme. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. La question réelle, c'est la nature des échanges. Pourquoi est-ce qu'il y a échange? S'il y a échange pour que les capitaux trouvent leur profit maximum et que ce soit les actionnaires qui trouvent leur profit maximum, et que, à partir de ce moment, la seule façon de diriger l'économie, c'est le profit des actionnaires en oubliant tout le reste, eh bien, on se retrouve avec des questions comme celle d'Enron, par exemple, cette société américaine qui était représentée comme la vendeuse d'énergie, la pointe la plus extrême de la modernité, et qui brutalement fait faillite, avec une faillite qui coûte 60 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent d'une année d'aide publique au développement mondial. Bon. Alors, donc, il faut avoir ces chiffres en tête. De la même façon, l'APD française, qui représente 40 milliards de francs par an, enfin 38 et 40 milliards, l'an dernier, Total et Elf ont quand même, Total Elf a fait un bénéfice de 52 milliards de francs. C'est-à-dire au-dessus de l'APD. Donc vous voyez que les flux...
APD, c'est l'aide publique au développement.
Donc les profits que Total a retirés des pays que l'on aide, entre guillemets, soi-disant, eh bien, est supérieur à l'argent qui a été envoyé, soi-disant, pour aider les pauvres. Donc vous voyez bien que, manifestement, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, on peut dire qu'il faut des politiques économiques qui ne soient pas uniquement fondées sur la croissance des exportations et la croissance tout court, mais qui soit fondée et sur la croissance, mais sur une croissance correspondant à des politiques de lutte pour l'égalité et contre les discriminations. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de privilégier la production liée à l'exportation, il faut privilégier la production liée au marché intérieur, la production liée aux services de base, la production liée à la satisfaction des droits et des besoins fondamentaux. Par exemple, effectivement, il faut construire une économie dans laquelle ce que l'on cherche à produire, c'est donner l'accès à l'eau, donner l'accès à l'énergie, et donner la sécurité alimentaire, donner l'accès à la santé, donner l'accès à l'éducation. Donc ça aussi, c'est une croissance, mais ce n'est pas la même croissance. Ce n'est pas la croissance des pays riches. C'est une croissance fondée réellement sur le développement équilibré, le développement local, le développement national, un développement qui est organisé par rapport à la satisfaction des besoins de la population et sur un objectif d'égalité et de lutte contre les discriminations. Alors évidemment, vous me direz pourquoi on ne le fait pas puisque ça paraît tellement évident. Eh bien, il faut admettre que malheureusement, on ne le fait pas parce que ça rendrait moins riches les plus riches.
Et justement, peut-être que la réponse précède ma question. Est-ce que les élites du Sud sont sensibles au type de développement dont vous parlez?
Non, évidemment non. Enfin, en tout cas, pas toutes. Vous savez, les élites, mais une grande majorité d'entre eux, non.
Ou les élites politiques, disons, les dirigeants.
Oui, une grande partie des dirigeants, non. Alors, pourquoi ne le sont-ils pas? C'est pas parce que s'ils sont plus à l'eau que les gens du Nord. Généralement, c'est simplement parce que d'une part, ce n'est pas leur intérêt, et une partie d'entre eux considèrent que ce n'est pas leur intérêt, et donc, malgré toutes leurs déclarations, ils ne sont pas pour, ils sont enrichis par la corruption, ils sont enrichis par leur lien avec le Nord, avec les pays du Nord, mais aussi parce qu'une grande partie d'entre eux ne croient pas que c'est possible. Une grande partie d'entre eux ne croient pas que c'est possible, et effectivement, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que avoir une politique de ce type, ça veut dire et idéologiquement et politiquement s'opposer à ce qui est dominant aujourd'hui dans le monde. Ça veut dire s'opposer à ce que préconise la Banque mondiale, ça veut dire s'opposer à ce que préconise la famille, ça veut dire s'opposer à ce que préconisent les États-Unis, par exemple, qui considèrent aujourd'hui que l'ennemi, comme ils disent, l'ennemi, c'est ceux qui s'opposent au libre-échange tel qu'il est conçu par M. Bush, c'est-à-dire, comme il l'a si bien dit dans sa phrase, qui est merveilleuse, la croissance des pays riches qui, dans bien bien longtemps, permettra peut-être aux pays pauvres de combler leur déficit. Mais en réalité, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce que nous voyons, c'est que les pays riches et les riches des pays riches sont de plus en plus riches, mais que les pays pauvres sont de plus en plus pauvres.
C'était donc Des Sous et des Hommes. On était en compagnie de Gustave Massia. Je peux peut-être conseiller une lecture, j'espère que je ne me trompe pas trop. Peut-être que vous pourrez éventuellement me contredire dans le titre. Il me semble que ça s'appelle Le viol des consciences et c'est Aminata Traoré.
Oui, c'est un bouquin magnifique. Aminata Traoré, qui a été ministre de la Culture du Mali et qui est réellement une grande femme africaine, et qui explique très très bien ce qui se passe de ce point de vue.
Merci beaucoup.